Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le port du masque sera la base dans les entreprises à partir de demain, mais il pourra faire l'objet de dérogations. Ces exceptions seront discutées et validées aujourd'hui rue de Grenelle avec les syndicats. En attendant, c'est le grand flou, vous le comprendrez.
Nous donnerons ensuite la parole aux salariés de Veralia en Charente. L'entreprise a distribué des millions d'euros de bénéfices mais souhaite supprimer 130 postes.
Vous en parlez ce matin avec vos invités Guillaume. C'est la rentrée cette semaine pour les élèves, dès aujourd'hui pour les enseignants. Vous entendrez leurs craintes après des mois passés loin de l'école et un virus toujours présent. Nous ferons le tour aussi des contenus numériques éducatifs.
Et puis nous irons au Liban où Emmanuel Macron est attendu ce soir. Premier signe d'ouverture, le président libanais Michel Aoun a reconnu la nécessité de changer de système politique.
La politique en France, c'est la gauche qui promet de rassembler pour l'élection de 2022. Les difficultés sont nombreuses mais l'idée progresse. C'est ce que nous dira Frédéric Seyss dans son billet politique à 8h16. Nous vous parlons sans masque ce matin au micro de France Culture, mais jusqu'à quand? Le port du masque sera obligatoire à partir de demain, on le répète, dans toutes les entreprises, avec toutefois quelques exceptions. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, parle de bon sens. Elle évoque les gros efforts physiques, les moments aussi où un salarié se retrouve seul dans son bureau. Des exemples sans pour autant trancher fermement, Diane Berger.
Des possibles dérogations avaient été évoquées par Elisabeth Borne la semaine dernière, mais hier midi, à 2 jours donc de la mise en place du port obligatoire du masque, la ministre du Travail était interrogée par BFM TV et le chantier semblait toujours en cours.
Vraiment, porter le masque systématiquement en entreprise, c'est très important quand on est à plusieurs, c'est très important pour se protéger, pour protéger ses collègues et pour protéger ses proches. Ensuite, des secteurs qui ont des difficultés particulières parce que la nature de leur activité est difficilement compatible avec le port du masque, bien sûr, on va les identifier, on va les rencontrer.
Il s'agira donc d'adaptation cas par cas au fur et à mesure et elles commencent à se faire attendre. Olivier Schiller est administrateur du mouvement des entreprises de taille intermédiaire.
Je ne sais pas si on peut parler d'impréparation, mais je crois qu'il serait utile que le gouvernement n'applique pas une mesure universelle, nationale pour toutes les entreprises. Pour un certain nombre d'entreprises, ce n'est pas trop gênant, mais pour d'autres secteurs d'activité, c'est plus difficile. Donc il faut lutter contre la pandémie, mais en même temps s'adapter à chaque territoire et à chaque type d'entreprise.
Et en attendant les dérogations, la ministre Elisabeth Borne le répète, elle souhaite autant que possible qu'un maximum de Français soient en télétravail.
Pour acter ce protocole sanitaire en entreprise, elle recevra une dernière fois les syndicats aujourd'hui. La liste des personnes qui pourront encore bénéficier de l'activité partielle se réduit ce lundi. Sauf à Mayotte et en Guyane, les salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier du chômage partiel en France et elles doivent toutes retourner travailler. Eux craignent le chômage tout court. Les représentants de l'usine Veralia de Cognac en Charente demandent l'intervention du gouvernement pour empêcher un plan social annoncé. Ils seront reçus aujourd'hui à Bercy car la direction de Veralia veut supprimer 130 postes, dont 80 rien qu'à Cognac où un four devrait fermer. Or, l'entreprise est numéro 3 mondial des emballages en verre. Elle fait des bénéfices, elle a même distribué 100 millions d'euros de dividendes. Annabelle Grelier s'est rendue pour France Culture à Cognac à la rencontre des salariés, évidemment très remontés.
Leader français de la bouteille de verre, Veralia a distribué 100 millions d'euros de dividendes le 10 juin dernier. 2 jours plus tard, il annonçait un plan social d'une centaine de salariés et la fermeture d'un four. Première raison invoquée, la crise sanitaire.
Tout ça, moi j'en ai rien à foutre du Covid. Parce que là, le bon dos, il a le Covid.
Morgane Berger, le jeune maire de Cognac, ne cache pas son exaspération. Fraîchement élu sous l'étiquette d'hiver droite, il vient d'écrire au président de la République.
Veralia est l'exemple même du capitalisme que je dénonce. Et donc je dis à Emmanuel Macron de regarder de près et de peut-être taper du poing sur la table quand même. Il y a matière parce que nous avons aujourd'hui 3 fours, le marché du verre quand même. Donc il y a encore aujourd'hui des pistes à aller chercher des nouveaux marchés au lieu de tendre à regarder l'Italie ou l'Espagne. Merde, on est en France, on a des savoir-faire. On est aujourd'hui, nous, la ville de Claude Boucher, celui le fondateur de la Verrie quand même à Cognac. Il y a toute une histoire qu'on vienne pas nous emmerder avec des prétextes financiers.
À la CGT de Veralia, Dominique Spinelli, lui aussi, est très en colère.
Déjà, c'est incompréhensible de lui faire un PSE en France, sachant que la France rapporte 35% du chiffre d'affaires. Et quand vous avez un président de Veralia qui a le culot de se faire remonter son salaire de 20% cette année, il va faire 1,1 million de salaire et 2,1 millions de dividendes. En 3 ans de temps, il a gagné 100 millions sur le dos de Verallia. C'est pas lui qui a fait la richesse de Verallia, c'est les salariés de Verallia qui a fait la richesse, et lui en profite. C'est un bandit, un voleur, et ça, je comprends pas que le gouvernement le laisse faire. Et le pire, c'est la BPI.
La BPI, la banque publique d'investissement, entrée au capital de Verallia en 2015, au moment de son rachat par le fonds américain Apollo, siège au rang des actionnaires. Elle a donc aussi touché des dividendes et validé le PSE.
C'est inadmissible. La BPI, c'est pas son rôle. La BPI, le rôle de la BPI, c'est sauvegarder les emplois. C'est garder les emplois, garder les industries françaises. Et la BPI, là, ils sont pires que les fonds de pension. Moi, qu'est-ce que je suis en colère, c'est par rapport à la BPI et le gouvernement, qui eux sont actionnaires à Verallia, ils ne font rien, ils ont validé ça, ce plan. C'est une honte totale.
La CGT appelle à une grande mobilisation citoyenne le 9 septembre prochain à Cognac.
C'était Annabelle Grelier pour France Culture. Après la rentrée covidée des entreprises, intéressons-nous à celle des enseignants. Ils sont 800 000 à faire leur pré-rentrée aujourd'hui, avant l'arrivée au compte-gouttes des élèves toute cette semaine. 800 000 professeurs masqués et déstabilisés pour certains. Écoutez par exemple Loïc, jeune professeur stagiaire de français dans un collège de région parisienne.
Ça décuple complètement la pression pour des débutants, je pense. C'est stressant de pas savoir surtout comment gérer la politique sanitaire. Les inquiétudes, c'est que les élèves ne portent pas le masque, ou qu'ils le retirent en cours, qu'ils se présentent sans le masque, comment les gérer? Est-ce qu'on va réussir à pouvoir imposer les règles? J'ai pas la réponse à toutes les questions vis-à-vis de cette situation particulière et de notre situation à nous, de débutants. Il va falloir qu'on tâtonne en réalité, et je pense qu'il va falloir l'accepter, étant donné que c'est une situation nouvelle. Il faut y aller doucement, je pense.
Voilà pour cette rentrée masquée, excepté, soulignons-le, auprès des tout-petits. Le port du masque dans les crèches, chez les assistantes maternelles ou pour la garde des petits à domicile ne sera pas encore obligatoire en présence des enfants, c'est ce qu'a souligné hier le ministère de la Santé. Notons enfin cette enveloppe actée par Jean-Michel Blanquer à l'éducation, 400 millions d'euros et non pas 500. 400 millions d'euros seront débloqués pour revaloriser les salaires des enseignants et leur travail. Le ministre a annonce un Grenelle des professeurs lancé en octobre. Nous reprendrons notre discussion sur cette rentrée 2020 particulière avec les invités des Matins de France Culture. Ce sera après ce journal. Avant cela, une question tout de même sur le quotidien des enseignants, justement, qui va peut-être changer cette année. Les programmes, on le sait, n'ont pas bougé. Ce sera à chaque établissement, au cas par cas, de s'adapter à l'éventuel retard pris par les élèves en fin d'année dernière. Et les professeurs pourront s'appuyer ou non sur une ribambelle de contenus numériques créés pendant le confinement. Ces contenus éducatifs ou pédagogiques proposés à la télévision ou en ligne vont perdurer en cette rentrée, Fiona Mogadam.
Il y a notamment la plateforme Lumni qui propose des contenus en ligne et adaptés à chaque classe. Puis dès ce soir sur France 4, une nouvelle émission est proposée à destination des élèves de primaire, le club Lumni, mi-éducatif, mi-ludique, dont une partie sera consacrée aux révisions. Amel Kogar est directrice de l'unité éducation à France Télévisions.
L'idée, c'est de donner tous les jours des ressources et une méthode aussi pour permettre aux enfants qui ont envie d'apprendre autrement de renforcer leurs acquis. Notre ambition, c'est de leur permettre de comprendre différemment à la maison, devant la télé.
YouTube lance aussi aujourd'hui un carnet de rentrée, idée qui découle de ce qui avait déjà été fait pendant le confinement. Un site où sont mis en avant les YouTubeurs, enseignants passionnés, qui réalisent des vidéos au contenu éducatif. Justine Rist, directrice de YouTube France.
On voulait continuer d'apporter notre contribution avec une sélection de chaînes de ce qu'on appelle les étutubeurs, qui fait le mix entre éducation et YouTubeur. Le but, c'est absolument pas de remplacer ce qui se passe en classe, mais d'apporter un complément pédagogique.
Des initiatives intéressantes pour Jean-François Cerisier, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Poitiers, mais qui nécessite un accompagnement des élèves.
Si on se place du côté de l'élève, qu'est-ce qui va le décider à regarder quoi, quand? Si le projet, c'est un projet éducatif qui a quand même une certaine finalité en termes de contenu, ça peut pas juste reposer sur une offre et l'espoir que les utilisateurs seront faire leur choix et l'utiliser efficacement.
Ceux qui, pour le chercheur, auraient peu de chances de fonctionner, sauf pour les élèves qui finalement en ont le moins besoin.
Et au chapitre de ces contenus numériques qui ont jailli lors du confinement, retrouvez notre émission en français dans le texte, de la lecture d'un texte à son analyse jusqu'à une dictée. C'est tous les samedis après-midi sur France Culture et bien sûr en podcast. Comment a-t-on pu acheter des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants en France? C'est ce qui s'est passé pendant des années via le site de vente en ligne Amazon. Sur pression de l'État, Amazon France a retiré ses produits pédopornographiques il y a quelques semaines, mais des associations et des personnalités veulent que le gouvernement aille plus loin. Elle demande dans une tribune diffusée par le média Loopsider des preuves de la part du gouvernement. Alicia Miami.
L'État est à l'origine du retrait d'une partie des poupées du site d'Amazon France, mais pour les acteurs de la protection de l'enfance, ce n'est pas suffisant. Arnaud Gallet est à l'origine de la tribune de Loopsider. Il réclame des sanctions contre Amazon et les autres revendeurs, contre les fabricants, mais aussi contre les acheteurs.
S'il y avait des poursuites judiciaires, ça permettrait au parquet d'ouvrir une enquête et donc d'avoir inévitablement la liste des personnes qui ont acheté. C'est pas anodin d'avoir quand même chez soi ce type de poupée sexuelle à l'effigie d'enfants. On peut se dire que potentiellement, il peut y avoir un risque que ce soit des personnes qui passent à l'acte. Ça permettrait d'être vigilant et d'appliquer une forme de principe de précaution. Finalement, on ne sait même pas combien de poupées ont été vendues depuis 2016. On se dit, allez hop, on retire du site, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas possible.
Manque de sanctions et de suivi, les associations déplorent aussi une législation parfois incomplète. Pour Omer Asselier, fondatrice de l'association Innocence en danger, la loi doit évoluer.
On a un article de loi en France qui punit l'apologie, par exemple, au racisme, au terrorisme, etc. Voilà. Il faudrait que cette loi soit étendue à ce domaine. C'est une apologie de viol de mineurs.
Malgré les récriminations des acteurs de la protection à l'enfance, la pédocriminalité est un sujet dont veut s'emparer le gouvernement. Adrien Taquet, secrétaire d'État de l'enfance et des familles, a annoncé la création à la rentrée d'une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, une instance qui s'intéressera notamment à la diffusion de contenus pédopornographiques sur les plateformes en ligne.
Alicia Miami pour France Culture. Veolia veut avaler Suez pour devenir un géant de la transformation écologique. La proposition a été déposée sur la table d'Engie, principal actionnaire de Suez. Veolia est déjà l'un des leaders dans le traitement de l'eau et des déchets et voudrait donc ajouter l'énergie à ses compétences.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron sera au Liban à partir de ce soir.
Oui, c'est la deuxième visite du président de la République après l'explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août dernier. Emmanuel Macron doit rencontrer les représentants des principaux partis libanais près d'un mois après avoir déjà demandé à la classe politique de se réformer. À l'aube de cette nouvelle visite au Liban, Emmanuel Macron semble avoir été entendu, Christian Chesneau.
Dans le sérail politique libanais, c'est l'ébullition. Comme si la visite, le 6 août dernier d'Emmanuel Macron à Beyrouth, avait provoqué une onde de choc, ou plutôt la prise de conscience que le système politique était impossible à maintenir en l'état. En l'espace de quelques heures, les mouvements sur la scène politique libanaise se sont accélérés. Il y a d'abord eu le feu vert du Hezbollah aux discussions proposées par Emmanuel Macron pour élaborer un nouveau pacte de gouvernance. Ensuite, le camp sunnite est tombé d'accord sur le nom du futur Premier ministre, en l'occurrence Mustapha Adib, actuellement ambassadeur du Liban en Allemagne. Enfin, le président Aoun a reconnu dans un discours à l'occasion du centenaire de la proclamation du Grand Liban que le temps était désormais venu de changer le système politique comme le réclame la rue libanaise. Autant dire qu'Emmanuel Macron arrive à Beyrouth ce soir dans des conditions favorables, mais pas question pour lui de relâcher la pression. Le président français souhaite également une feuille de route contraignante des réformes structurelles, jusqu'ici promises mais jamais tenues.
Un officier de l'armée française a été mis en examen ces derniers jours. Haut gradé, il est soupçonné d'avoir transmis des copies de documents militaires à la Russie. Envolons-nous maintenant, et c'est le cas de le dire, envolons-nous pour Israël, où se prépare un vol historique, Tel Aviv-Abu Dhabi. Pour la première fois ce matin, un vol civil va rallier Israël aux Émirats Arabes Unis, 18 jours après que la normalisation annoncée de leurs relations ait été donc annoncée. Pour entériner cet accord, les délégations israéliennes et américaines se rendent à Abu Dhabi en avion. Tout un symbole, Frédéric Mettezo.
Le vol 971 de la compagnie israélienne El Al, avec une étoile de David et le mot « paix » écrit en arabe et en hébreu sur la carlingue, partira de Tel Aviv et survolera l'Arabie Saoudite, ce qui est aussi une première. Mais il ne transportera que des journalistes et des hautes personnalités comme Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial de Donald Trump, avec des diplomates et conseillers américains et israéliens très haut placés. Avec les Émiratis, ils parleront diplomatie, visa, commerce, finance, tourisme, santé avec la lutte contre le coronavirus et défense. Ce dernier point est le plus délicat car les États-Unis veulent vendre des avions de chasse F-35 aux Émirats et ça ne plaît pas en Israël qui souhaite conserver son monopole au Moyen-Orient sur ce matériel de pointe américain. Cette polémique a déjà entraîné l'annulation d'une réunion tripartite à New York il y a 10 jours. Derrière la belle image d'un avion civil, les avions militaires vont compliquer les discussions.
Quelques mots d'un trafic ferroviaire enfin. Il a été totalement bloqué cette nuit entre Dax et Bordeaux, provoquant jusqu'à 20 heures de retard pour certains TGV cette nuit. La faute à des pannes de caténaires. Les averses vont toucher tout l'est du pays ce lundi. Ailleurs, prévoyez de belles éclaircies avec des températures en dessous des normales de saison. Ce matin, il fait 11 degrés à Rennes, 13 à Paris, Lille et Strasbourg, 19 à Marseille.